santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale contre la douleur. 80% des habitants du globe sont privés de morphine, traitement pourtant indispensable dans la prise en charge de certaines douleurs. Cette prise en charge est encore considérée comme secondaire dans un grand nombre de pays. Cela reste le parent pauvre de la médecine. Alors, quels sont les traitements indispensables contre la douleur? Comment mieux s'occuper des patients? C'est ce que nous allons voir avec le docteur Alain Séry. Il est responsable du centre de la douleur de l'hôpital Lariboisière à Paris. Il est président de Douleur sans frontières et membre de la Société française d'études et de traitement de la douleur. Également avec lui Pascal Thibault, cadre supérieur de santé, puéricultrice, spécialiste de la prise en charge de la douleur et membre du Centre national de ressources de lutte contre la douleur. Également avec nous Martine Chauvin, tenniswoman, qui est une patiente douloureuse, présidente fondatrice de l'AFVD, l'association francophone pour vaincre les douleurs. Alors si vous souhaitez participer, poser une question, appelez-nous au 33 1 56 40 18 22. Dans cette émission, nous irons également au Mozambique, voir comment se passe la prise en charge de la douleur. Et nous terminerons en parlant de la conférence internationale sur le vaccin AIDS Vaccine 2009 qui se déroule en ce moment et jusqu'au 22 octobre à Paris. Docteur Alain Séry, Pascal Thibault et Martine Chauvin, bonjour.
Bonjour.
Merci
bonjour
à tous les trois d'être là en direct dans Priorité Santé. J'allais dire, c'est indispensable qu'il y ait dans une émission comme celle-là un médecin, une infirmière et je dirais une patiente pour parler de cette prise en charge de la douleur. Docteur Alain Séry, tout d'abord, c'est la journée mondiale de la douleur. Quasiment rien dans la presse aujourd'hui.
Ben oui,
c'est révélateur.
C'est tout à fait révélateur, c'est significatif, ça veut dire quelque chose tout de même. Alors c'est vrai que l'actualité est très riche actuellement, en France et à l'étranger, mais quand même, comme vous l'avez dit, c'est l'affaire de tous, c'est l'affaire des pays du Sud, c'est l'affaire des pays du Nord. Donc en France, pour cette journée mondiale, nous avons développé une initiative française, puisque c'est la quatrième année de prévention de la douleur. On peut la prévenir, la douleur, on peut éduquer. On a des moyens pour faire en sorte que les douleurs que nous créons, nous, c'est peut-être un peu curieux de dire ça, mais les douleurs induites par les soins ou par les actes diagnostiques et thérapeutiques, les pansements, les escarres, les biopsies, tout ça, on sait à quel moment on va les créer. Et donc on peut les prévenir. Donc on a voulu privilégier cet aspect-là, la prévention. Quatrième donc journée nationale. On a utilisé la journée mondiale pour faire cette journée nationale.
Mais vous avez du mal à vous faire entendre.
Alors voilà, oui. Alors heureusement et merci de votre invitation. Mais c'est vrai qu'on a du mal. Et pourtant, il y a aujourd'hui porte ouverte. 130 établissements de santé en France, 130 villes, pardon, ont ouvert les portes pour soit au niveau du théâtre municipal, soit au niveau de l'hôtel de la région, soit au niveau d'un hôpital, eh bien, discuter de la douleur, des conférences, des débats. Martine Chauvin revient de Créteil où aujourd'hui ça a démarré. Des conférences, des posters,
informer le grand public sur le fait que cette douleur peut être prise en charge. Quelles sont les principales causes de la douleur? Vous l'avez dit, la douleur peut provenir des soins, mais quelles sont les principales causes?
Alors, c'est intéressant ça parce que on n'avait pas toutes les données là-dessus. On a eu durant trois ans, les états généraux de la douleur avec un livre blanc qui a été donc réalisé en 2005. Ça fait, c'est pas très longtemps. Et on n'est pas surpris de voir que la première cause, c'est la maladie dans 32% des cas. Donc ça, c'est normal ça. Et puis, là où on est surpris, c'est que les douleurs justement provoquées par les soins, c'est plus de 20%. Les douleurs post-opératoires, encore 14% en France, alors qu'on a tous les moyens, tous les protocoles, toutes les recommandations pour faire en sorte de les appliquer. Et pour les appliquer, c'est facile, il suffit les personnels sont formés. Alors pourquoi, il faut quand même se poser la question, pourquoi on laisse encore souffrir les patients en post-opératoire? Là, je parle de la France, parce que dans les pays du Sud, on est encore loin de ça. Et puis, il y a les douleurs provoquées par les accidents. Alors quand on dit accident, on pense accident de la voie publique. C'est pas vrai en France. En France, c'est les accidents du sport et les accidents domestiques. Les chutes dans les escaliers des personnes âgées, les enfants qui se brûlent dans les cuisines ou dans les salles de bain. Alors c'est pas pareil dans les pays du Sud, puisque vous savez bien que maintenant, dans certains pays, il y a plus d'accidents, d'amputations en rapport avec les accidents de la voie publique que les mines antipersonnelles dans les pays où il y avait des mines antipersonnelles. Alors on voit que finalement, quand on fait le compte, ça fait plus de 50% des douleurs sur lesquelles on peut avoir un impact de formation et de prévention.
Pascal Thibault, je l'ai dit, vous êtes cadre supérieur de santé. On est inégaux face à la douleur. Il y a une étude qui est sortie qui montre que les Français sont plus douillés. Je crois que cette expression vous fait un peu bondir.
Alors oui, ça me fait complètement bondir et je pense que même Chauvin sera d'accord avec moi. Je ne pense pas qu'on puisse dire que telle ou telle population, en fonction de son origine ou de son âge, soit plus douillette. Par contre, ce qui est peut-être le plus difficile à admettre, c'est que nous sommes inégaux devant la douleur, mais nous sommes aussi inégaux dans notre parcours de vie. C'est-à-dire qu'on ne sait pas à quel moment on va connaître la douleur la plus intense. Et ça, je pense que c'est difficile à comprendre pour les personnels de santé, parce que c'est le patient qui dit ce qu'il ressent. Et ça nous demande d'être complètement disponible à
son écoute. Et alors justement, comment vous faites pour évaluer la douleur ?
Alors, c'est la première étape, c'est celle qui est indispensable, qu'on a bien du mal quelquefois à faire appliquer. Il existe de nombreux outils qui peuvent nous aider. Donc, quand le patient peut tout à fait s'exprimer et évaluer sa douleur, c'est-à-dire à partir de 5-6 ans chez l'enfant et jusqu'à un âge très très avancé, même quand on commence à perdre un peu ses capacités cognitives, on peut s'auto-évaluer avec des petites réglettes, avec des moyens assez simples. On demande au patient entre 0 et 10 de s'auto-évaluer. Et puis, pour les jeunes enfants, pour les personnes qui sont handicapées ou très âgées, on a aujourd'hui des outils, en tout cas en France, des outils qui nous permettent de pratiquer ce qu'on appelle des hétéro-évaluations à partir de grilles.
Priorité santé sur RFI. Martine Chauvin, vous avez été tenniswoman, vous êtes une patiente douloureuse, vous êtes présidente fondatrice de l'association francophone pour vaincre les douleurs. Comment ont démarré ces douleurs ?
Elles ont démarré très jeunes, à l'âge de 20 ans, avec des lombagos tout simples en fait. Lombago qui durait 3 jours et donc très facile à gérer. Ça s'est passé à 3 par an, 10 par an, 15 par an et puis ça est terminé à 2 par mois de 15 jours chacun.
Qu'avez-vous fait à ce moment-là ? Vous avez cherché à contacter un centre antidouleur ? Ça n'existait pas à l'époque ? Vous avez fait comment ?
Non, moi je n'avais pas connaissance de centre antidouleur. Alors pour dire que ça n'existait pas, ça commençait quand même à...
Docteur Alassery, ça commençait à exister ?
Oui, en 1998.
Oui, c'est ça. Ah oui, un petit peu avant quand même. Hein.
Oui.
Oui, ça dépend dans quelle région, mais dans les premiers centres, c'est aux alentours des années 80-85, à la fois à Montpellier, à Strasbourg, à Paris.
On est très en retard, par exemple, oui, par rapport aux Américains là-dessus.
Ah oui,
eux, ils ont démarré ça il y a beaucoup plus longtemps.
Oui, ils ont démarré dans la décade 46-56, donc après-guerre. Et nous, au Danemark, au Japon, et en Allemagne, en Angleterre.
Martine Chauvin, alors vous avez fait quoi une fois qu'il y a eu toutes ces douleurs ?
Eh bien, je suis allée voir mon médecin traitant, qui m'a dit, de toute façon, pour le mal au dos, on n'arrête pas de travailler, on continue. Donc, j'ai continué. Difficilement, mais j'ai continué jusqu'au jour où je ne pouvais plus du tout. Je suis restée dans le lit. Et là, j'ai eu la chance d'avoir un frère qui avait son fils hospitalisé. Et je suis allée voir un orthopédiste pour voir ce qui se passait. Il s'est trouvé que la colonne vertébrale n'avait plus de disque sur deux étages. Donc là,
enfin, on a entendu votre douleur,
oui,
si je peux m'exprimer ainsi.
Oui, il n'y avait pas de souci. La personne en face de moi, le médecin en face de moi avait bien compris. Et il savait que je souffrais, il n'y avait pas de souci. Donc j'ai subi une arthrodèse.
C'est-à-dire, c'est quoi ?
Alors l'arthrodèse, ça consistait à regreffer des disques aux étages qui étaient complètement abîmés en faisant une autogreffe, prenant de l'os sur la hanche, et puis attacher les étages avec des tiges et des vis pour pouvoir remettre ma colonne droite, puisque j'avais quand même une double scoliose.
Et là, la douleur s'est calmée ?
La douleur s'est bien calmée. D'ailleurs, elle avait disparu complètement.
Et aujourd'hui ?
Aujourd'hui, elle a repris depuis 2001, donc elle a repris un an et demi après, violemment. Et là, depuis un an et demi, elle ne m'a pas quittée, entre guillemets.
Comment vous faites au quotidien ?
Je vis avec elle. Je vis avec elle. C'est autour d'elle que je fais, que je construis ma vie.
Comment vous avez appris à gérer cette douleur? Est-ce qu'on peut d'ailleurs utiliser cette expression qui est peut-être maladroite?
Oui, complètement. Non, on gère sa douleur. On vit avec sa douleur, on la gère. Hein. J'ai appris toute seule, en fait. Moi, c'est sûr que je me suis un petit peu poussée. Et puis, je me suis dit, de toute façon, il faut s'en sortir. Puisque, à un moment de ma vie, c'est vrai que j'ai eu envie d'arrêter. Mais vite fait, j'ai repris le dessus et je me suis bien battue.
On dit souvent que la douleur est très handicapante. Pour vous, c'est une réalité au sens propre, même pas au sens figuré, c'est cette douleur qui vous oblige à être en fauteuil roulant aujourd'hui.
Tout à fait, c'est la douleur. Moi, je suis capable d'être au seuil zéro. Allongée, je suis au seuil zéro. Il n'y a pas de souci.
Vous n'avez pas mal.
J'ai pas mal. Après, j'ai des traitements qui m'amènent à pouvoir sortir du lit. C'est grâce à ces traitements, grâce à ce fauteuil et grâce à tout mon entourage, je sors du lit et je viens ici. Donc maintenant, c'est la belle vie, puisque ça a quand même considérablement changé. Pardon. De 23h sur 24 au lit, je passe à venir 7-8 heures à Paris. Donc c'est génial. Pas sans conséquence, mais c'est génial quand même.
Ça veut dire que vous allez avoir plus mal ce soir?
Bien
c'est
sûr.
Ça veut dire.
Oui,
mm-hmm.
Voilà.
Docteur Alain Séry, vous le dites, hein, la douleur devient une véritable maladie au bout d'un moment. La douleur en elle-même.
Oui. On peut distinguer, enfin différencier trois types de douleurs. Il y a la douleur aiguë, qui est un signal d'alarme et qui signe un dysfonctionnement, une agression. C'est la douleur de la fracture, c'est la douleur de l'infarctus du myocarde, de la colique néphrétique. Celle-là, elle est très courte, par définition. Il faut la prendre en charge tout de suite. Moi, je me souviens que jeune interne, dans les camions de SAMU, Paris est divisé en deux par la Seine, et puis il y avait un camion au nord de la Seine et un camion au sud. Mais comme consigne, dans le camion, on avait de ne pas prendre en charge la douleur pour amener le malade douloureux à l'hôpital pour qu'on constate la douleur. Maintenant, on sait très bien que ça ne sert à rien et qu'il faut traiter la douleur et qu'elle ne retarde en aucun cas le diagnostic et la mise en œuvre du traitement curatif.
Mais ça, c'est la douleur aiguë. Mais c'est pas ce que vit Martine pour l'instant.
Pas du tout. Et ensuite, il y a la douleur chronique. La douleur chronique, c'est quand vous avez une névralgie dans le bras, cervico-brachial ou une lombalgie. Et puis, comme Martine Chauvin vient de dire, au départ, c'était épisodique. Donc ça, quand ça se reproduit, c'est la douleur chronique. Cette douleur chronique, elle a des conséquences, mais elle ne retentit pas sur la vie familiale, sociale, professionnelle. Et puis il y a le syndrome douloureux chronique. Et celui-là, il est entouré, c'est ce qu'on appelle le modèle biopsychosocial, c'est-à-dire qu'il y a des répercussions sociales, professionnelles, familiales. Et alors celui-là, c'est une maladie, c'est une pathologie. Il faut que ça soit reconnu par notre système de santé en tant que tel. Nous battons pour faire en sorte que ce syndrome douloureux chronique, rebelle à toute thérapeutique, qui évolue pour son propre compte, soit reconnu au même titre que le diabète ou que les maladies cardiovasculaires. Mais on n'en est pas encore.
Comme une affection de longue durée.
Absolument.
Non, mais ça, c'est indispensable.
Priorité santé sur RFI.
Aujourd'hui, je reçois le docteur Alain Séry, Pascal Thibault et Martine Chauvin, et nous parlons de la douleur. Pascal Thibault, vous nous l'avez dit tout à l'heure, la première étape quand on prend en charge des patients, c'est d'évaluer la douleur. Une fois qu'on a évalué cette douleur, qu'est-ce qu'on fait? Quels sont les moyens dont on a à disposition?
Alors, on dispose aujourd'hui de nombreux moyens médicamenteux qui sont prescrits par les médecins, donc c'est quand même une avancée considérable. Mais c'est vrai qu'on sait que ces moyens doivent être accompagnés par des comportements soignants extrêmement attentifs. Ils peuvent également être accompagnés par ce qu'on appelle des moyens non pharmacologiques aujourd'hui de prise en charge de la douleur, qui sont des moyens physiques, des moyens comportementaux, cognitifs, et aussi des méthodes psychocorporelles comme les méthodes de relaxation, de distraction, d'hypnose, qui ont fait leurs preuves et qui vont aider, qui sont reconnus comme étant complémentaires des moyens pharmacologiques, puisque le troisième plan de lutte contre la douleur les a clairement identifiés comme tels.
Martine Chauvin, effectivement, il n'y a pas que des médicaments. Vous, c'est pas un médicament, ce que vous avez avec vous, c'est quoi exactement? C'est une petite machine, c'est ce que j'ai cru comprendre.
C'est une technique de neurostimulation qui commence par être une neurostimulation externe, pour déterminer si l'effet est conséquent ou pas. Et puis, quand l'effet est conséquent, c'est une neurostimulation interne. Donc, le système, c'est de délivrer des paresthésies, donc des petits courants électriques, des petites décharges électriques à la moelle épinière, au nerf central, afin de couper le circuit de la douleur.
Et ce petit boîtier, alors, vous l'avez en permanence avec vous? Je ne sais pas d'ailleurs si c'est un petit boîtier.
Le boîtier est implanté, il est à l'intérieur du ventre et il est relié avec une électrode, à une sonde avec des électrodes sur la moelle épinière, oui, sur l'enveloppe.
Docteur Alain Séry, c'est intéressant ça, parce qu'alors on n'est pas dans quelque chose de médicamenteux.
Non, on n'est pas là, on est dans des techniques qui sont, comme ça a été dit, d'abord des techniques externes, un petit, comme un appareil, comme un téléphone portable, c'est pas plus gros, qu'on porte dans une poche de la ceinture, relié à des fils et à des électrodes, qu'on met en place sur la zone douloureuse. Et puis après, la deuxième étape, c'est le pacemaker neurologique, comme le pacemaker cardiaque, qu'on met donc sous la boue et qu'on relie à une sonde. Alors, c'est une méthode qui permet de diminuer la prise de médicaments et qui parfois donne des résultats qui permettent d'arrêter les médicaments, dans certains cas. C'est une méthode particulièrement intéressante. Mais ça n'est réservé dans un cas bien précis de douleur. C'est pas le traitement de toutes les douleurs.
Docteur Alain Séry, si vous le voulez bien, les auditeurs ont envie de vous poser des questions. Vous connaissez bien ce qui se passe dans les pays en développement par Douleurs sans frontières. On va en parler de ce que vous faites avec cette ONG. On a Georges qui nous appelle de Kampala, en Ouganda. Georges, bonjour. Georges, est-ce que vous êtes
bonjour,
là
Claire, bonjour.
Nous vous écoutons, mais la ligne n'est pas très bonne.
Je suis là. Ok. M'entendez-vous, Mélanie?
Oui, ça, on vous entend mieux. Allez-y.
Ok, moi j'ai connu une opération, une chirurgie, la parotomie en 1994, pratiquement. Alors, on m'a administré une anesthésie au Ketalar, je pense, donc avec une ponction lombaire. Et 6 ans après, pratiquement, je pense, j'ai senti une douleur un peu éclair au niveau lombaire. Et je me suis dit peut-être que c'était suite aux exercices physiques que je faisais intensivement. Mais alors, après une petite accalmie, quelques temps après, cette douleur revenait de façon quelque peu sporadique. Mais dès lors, j'ai toujours eu des douleurs au niveau lombaire. Et maintenant, là, il y a presque pratiquement 2 mois, je n'arrive pas à bien me sentir, c'est-à-dire je sens toujours des douleurs au niveau lombaire, et même pour m'allonger...
Et Georges, si je comprends bien, vous vous demandez si cette douleur est due justement à la péridurale, à l'anesthésie que vous avez eue, ou si c'est lié à autre chose. Alors ça va être difficile pour vous, docteur Alain Séry, de répondre, vous n'avez pas fait une consultation par téléphone. Mais est-ce qu'il est possible comme ça qu'une péridurale puisse faire mal longtemps après?
C'est, évidemment, c'est possible, mais c'est extrêmement rare. Enfin, surtout là, il y a distance, 6 ans après, si j'ai bien compris, c'est quand même... moi, je pense que la première cause, c'est de se poser la question si c'est pas une lombalgie tout à fait banale, aiguë d'abord, qui devient une lombalgie chronique et qui est sans rapport avec la péridurale. Je pense que c'est l'examen clinique, l'interrogatoire, et puis un traitement anti-inflammatoire et un traitement antidouleur dans un premier temps, et puis de voir comment ça se passe, avec donc des règles d'hygiène et de rééducation.
C'est ça, c'est important donc d'aller voir le médecin. Merci beaucoup Georges de nous avoir appelé. Docteur Alain Séry, je voudrais qu'on parle de cette ONG Douleurs sans frontières. Oui, vous êtes venu régulièrement dans Priorité Santé d'ailleurs. Merci en parler. Vous êtes présent dans un certain nombre de pays et votre objectif c'est justement la prise en charge de la douleur dans les pays en développement.
Oui, alors il y a 3 objectifs. Premier, c'est santé primaire, mettre en place donc des consultations douleur, mettre en place des centres de soins palliatifs. Par exemple au Cambodge, on a commencé il y a 15 ans. On pensait au Cambodge que c'était un peu une cerise sur un gâteau. Bah, pas du tout, maintenant on est au 7e et comme le Maroc, le Cambodge nous a demandé d'organiser un programme gouvernemental de prise en charge pour l'ensemble donc, du pays. Prise en charge de soins palliatifs et de douleurs. Donc on voit que ça devient une priorité. Et d'ailleurs, je reviens du Mozambique, à Maputo, c'est une réelle priorité et ils vont beaucoup plus vite que nous. Nous, on a mis 25 ans pour arriver à ce qu'eux arrivent à faire en 2-3 ans. Pourquoi ? Parce que dans certains pays, le niveau de vie a augmenté, la fin de vie dans des douleurs intolérables n'est pas admissible. Il n'y a pas de raison qu'on meure différemment, que ce soit des pays du Nord ou les pays du Sud. C'est totalement...
Alors on va revenir, si vous le voulez bien, sur ce qui se fait au Mozambique, parce qu'effectivement vous avez atterri ce matin du Mozambique. On va aller voir comment se passe la prise en charge. Donc vous restez avec nous, docteur Alain Séry, Pascal Thibault et Martine Chauvin. Nous parlerons également de la conférence internationale sur le vaccin qui se déroule en ce moment à Paris. Et vous pouvez bien sûr continuer à nous appeler au 33 1 56 40 18 22.